Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, et animée par l'équipe des Films de la Gorgone, des filmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast, disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission, culture-prohibée.blogspot.com.
Non, monstre. Mes amis m'appellent monstre.
Au sommaire aujourd'hui, un hommage à une légende du cinéma français qui vient de nous quitter ce 24 septembre 2024, Pierre William Glenn. Il fut entre autres le directeur de la photo de Claude Miller, Jacques Doyon, Costa Gavras, François Truffaut, Bertrand Tavernier, Jacques Brel. Bien sûr, les cinéphiles se souviennent de son travail incroyable sur Série Noire d'Alain Corneau et Monsieur Klein de Joseph Losey, sur lequel il fut cadreur. En tant que réalisateur, il a œuvré dans le cinéma de genre, notamment en essayant à son époque, 1987, de signer le film de science-fiction, certainement le plus dingue et ambitieux qui soit, Terminus. Nous l'avions rencontré en 2011 au Festival international du film d'Amiens. Nous avons décidé de rediffuser cet entretien. Tout de suite, Pierre William Glenn au micro de Culture Prohibée.
Associe, enfin c'est présenté comme ça dans le catalogue, un peu à la nouvelle vague, mais pour moi, vous êtes un des plus grands artisans du polar à la française, du film noir à la française, je dirais. Quel attachement vous portez au genre?
On va dire énorme, c'est un attachement, on dirait presque viscéral, c'est-à-dire mon copain, mon ami, Corneau, est parti sur la notion de genre à partir de l'échec de son premier film, qui était France Cité Anonyme, et il est parti sur l'idée du genre, sur l'idée d'essayer de retrouver quelque chose de mythologique en respectant les règles d'un genre qui était pour lui, bon, lui il a choisi le film policier, je l'ai accompagné là-dedans et j'ai fait beaucoup de films d'après Manchette, avec Labro, avec Nick Lou, c'est 8 ans, qui était lié au genre. Le genre, c'est-à-dire qu'on respecte les codes et puis on les transgresse. Moi, ce que j'aime bien dans le polar, c'est qu'il y a un polar social, il y a un polar psychologique, il y a un polar mythologique et de, on va dire, à partir de Melville, Couture Perméville qui faisait des polars intemporels, qui disait c'est pas localisé, on peut faire comme Niclo des films, on sait pas où on est, on sait pas où on est, puis on sait pas de quoi on parle exactement, on parle de mythologie, on parle de rapport à la mort. Et des gens comme Corneau ou comme Tavernier, qui étaient des gens beaucoup plus ancrés dans une réalité sociale très importante pour eux, qu'il y a aussi dans les films de Stephen Frears, quand il adapte justement Thompson. L'avantage du genre, c'est que c'est à la fois une littérature que j'adore, enfin, j'ai été élevé avec ça, hein. J'ai été avec Bellevec, Horace McCoy, j'ai été avec Manchette quand c'est des Français, avec Amila, le polar français, le polar américain, Dashiell Hammett, Chandler, j'ai été élevé avec ça, et j'ai lu beaucoup plus jeune, et je continue, sur un genre qui, je dirais, ça parle de moi. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui me parle de moi. Ça parle du désir de meurtre, ça parle de la violence, ça parle de la manière dont on contrôle ou on ne contrôle pas ça. Et pour moi, c'est extrêmement... C'est le genre polar, ce qu'on appelle polar, le film noir. Moi, tous les hommages sont faits au film noir avec Eddie Muller. Ce sont des choses qui, pour moi, j'apprends toujours quelque chose. J'ai revu à Lyon... Polar des années 48, là, et absolument, il n'y a pas longtemps, avec Belinda, Belinda qui sont des choses, pour moi, je veux dire, essentielles dans ce que j'ai pu vivre personnellement et dans mon expérience de la vie. Voilà, je pense que c'est une expérience de la vie sans trop de démagogie, de compromis, ça, c'est l'état des choses, comme dirait Wenders. C'est, pour moi, le polar, c'est l'état des choses. Et ça le reste. Ça le reste, alors, avec des gens qui sont hors temps, comme Tarantino, qui sont hors temps, mais qui sont aussi des polars, avec le côté liberté de l'auteur de dire ce qu'il veut sur l'histoire, et puis des films extrêmement ancrés dans une réalité sociale, comme tout le polar que nous connaissons, nous voyons et qui sont devenus des références. Je n'ai fait pas mal de polars avec eux.
Ah oui.
Avec des Français. J'en ai fait pas mal.
Vous avez fait énormément de polars. Vous avez même travaillé avec des petits maîtres du polar qui sont un peu tombés dans l'oubli, comme Jean-Claude Missienne, par exemple.
Et je vous dis, là, j'étais avec lui il n'y a pas longtemps. La mission, c'était on est parti sur le polar, sur le genre aussi. C'est quand il m'a dit, je voudrais que tu fasses un film en référence à ce que j'aime, donc au film, il parlait, lui, des films de Duvivier, mais c'est toujours un peu la même famille, quoi. Et Corneau aussi était un grand admirateur de Clouzot, vous voyez, l'idée du film noir, vous voyez. Je regardais hier soir tard, parce que c'était tard, le police spécial, là, le film noir, éclairé par Philippe Latrobe de Blake Edwards. Et je dis, bon, je vais regarder, j'ai le film longtemps, je vais regarder 10 minutes, et puis j'étais au bout, c'est fini à 3 heures. Et il y a quelque chose qui m'accroche dans l'idée du noir et blanc, du gris, de la tragédie de base, c'est-à-dire la vie et la mort, donc ça traite toujours de ces problèmes qui sont, si on ne veut pas réfléchir à ça, c'est un petit peu con. Voilà,
c'est vrai. Un grand film noir, d'ailleurs, qui a été éclairé par un chef-op, qui est une de vos références, c'est Stanley Cortez, La Nuit du Chasseur.
La Nuit du Chasseur, j'allais vous dire, parce que La Nuit du Chasseur, on voit le film, c'est des films qui tiennent beaucoup, beaucoup sur la manière de filmer. Chez Newton n'était pas un homme d'image a priori, c'est un homme de théâtre, très grand acteur, mais en fait, c'est des films dans lesquels la créativité sert l'idée de faire vivre ce qui est dans la lumière, de tuer ce qui est dans l'ombre, de jouer avec la vie, elle arrive dans la lumière, c'est violent. Les tueurs, c'est violent. Et Cortez, c'est un très grand créateur. Et ce qui est intéressant dans l'histoire du cinéma, c'est d'arriver à découvrir la part de créativité. Il y a des films de collaborateurs de création. Il y a des films de déco. Claude de Tonlarat, c'est un déco, les films qu'il a fait. Je veux dire, c'est des films de décorateurs. Il y a des films de Trôner, et il y a des films d'opérateurs. On parlait de Cortez. Il y a des films de directeurs photo qui sont les films d'Alcon. Et Cocteau disait Dalcan, ça lui appartient plus, puisque tous ces mystères nous dépassent, nous feignons d'en être l'auteur. Et c'était tout à fait juste, parce que quand on regarde les histoires de tournage racontées par Dalcan, racontées par Cocteau, par Marais, on voit l'importance décisive de la personne qui fait la lumière. Ça nous ramène au polar. C'est qui est-ce qui... qu'est-ce qu'on éclaire ? Et l'idée de la théorie des lumières, c'est l'idée d'arriver à mettre la lumière sur quelque chose ou pas. Qu'est-ce qu'on laisse ? Qu'est-ce qui lui domaine du cachet ? Qu'est-ce qui lui domaine de l'invention qu'on ne voit pas ? C'est tout à fait passionnant. Et c'est pour ça, je vous dis, que d'abord, le noir et blanc passionne toujours, de plus en plus. Et l'idée du film de genre, un film polar, je disais ce matin, j'avais dit, un film, dès qu'on prend un genre, un film polar, ça ne peut pas être complètement emmerdant. Un film ne peut pas être complètement emmerdant quand on se ramène au genre. C'est ce que m'avait bien expliqué Corneau en ayant bien réfléchi sur la notion d'auteur.
Once upon a time, there was a pretty fly. He had a pretty wife, this pretty fly. But one day she flew away, flew away. She had two pretty children, but one night these two pretty children flew away, flew away into the sky, into the
Corneau, pour vous, c'était... Comment on travaillait avec Corneau ?
Corneau, c'était un ami. C'est-à-dire que le problème de Corneau, je l'ai connu il y a 50 ans. Donc, c'est des types que j'ai connus tout jeune et qui, jusqu'à la fin de sa vie, je suis resté très proche de lui. J'étais plus proche de lui avant qu'il se marie avec Nadine Trintignant, mais j'étais très proche d'Alain et qui m'a beaucoup appris de choses, qui m'a appris. Alors, ce que je lui apprends, c'est une chose, mais ce que lui m'a initié à la musique, le jazz, on s'est connus gamin, quoi. Et je le voyais quand même. Quand j'étais pas en tournage pour lui, et j'ai fait ce film quand c'était possible, il y avait une vraie intimité sur la littérature, sur la peinture, sur la musique et sur le cinéma. Et ça faisait partie des gens, comme j'essaye de le faire, donner une référence cinématographique avant de faire un film. Tiens, je voudrais que ça soit, ça ressemble à ça et pas à ça. Alors, il était un petit peu trop, lui, ceinture bretelle sur un découpage très très classique, et ce film que je présente là, c'est quelque chose dans lequel c'est fait partie de mes grandes satisfactions esthétiques. Je suis arrivé à lui dire, faut essayer de faire autre chose, et puis je suis arrivé à le faire et il s'y retrouver. Donc ça, c'est des idées très très, comment dirais-je, créatives. C'est-à-dire, quand on arrive à dire à quelqu'un quelque chose et puis qu'il nous explique ce que vous lui avez transmis, lui dire en disant qu'il l'a trouvé tout seul, vous avez réussi quelque chose, et c'est pour ça qu'il faut rester modeste au fond, mais en même temps extrêmement heureux d'arriver à transmettre quelque chose. Les rapports de la mise en scène et de l'image, c'est toujours ça. Et les couples, c'est de metteur en scène, chef opérateur, c'est toujours ça.
D'ailleurs, Cyril Noir, c'est vrai qu'il est particulier dans sa filmographie, il y a beaucoup de plans fixes et tout ça, il est très différent, et vous avez une photo qui est différente aussi des autres plans.
Oui, bien sûr.
Dans celui-là.
Bien sûr. C'était moins, il n'y a pas de découpage, c'est un film où il n'y a pas de découpage, donc ça a l'air très très mis en place, alors qu'en fait il n'y en avait pas, donc ça c'est énorme, parce qu'on a l'impression que c'est un film très construit, alors que je lui ai dit, on va garder les acteurs, et tu découperas après, donc c'était un gros de travail. On arrivait avec 20 plans, 25 plans, 30 plans, 40 plans à faire dans la journée, je lui ai dit, tu laisses tomber cette méthode, très classique, de Costa Gavras, de Puzo, de toujours ses références au film noir, tu laisses tomber tout ça, et on regarde, on tourne avec deux caméras et en fait, ça pourrait sembler une télé-réalité. Alors que le film est très très construit, écradé et tout ça, alors que vous ne savez jamais ce qui allait se passer. Ça,
voilà, on apprenait quelque chose, je pensais que c'était un film très construit justement.
Mais c'est ça qui est une force. Et je dis, ce qui est bien, c'est qu'en même temps, il se sentait libre. Le film a été tourné très vite et c'était pas du tout les films beaucoup plus sophistiqués que sur le choix des armes, beaucoup plus caméras, scope, que ce soit La Menace par exemple aussi. C'est beaucoup plus sophistiqué, et alors qu'en fait, il s'est laissé aller. Il n'était pas très heureux au tournage, mais il a été heureux après. C'était, pour moi, c'est ce que j'ai fait.
Oui, je pense aussi. Vous avez travaillé aussi avec des anglo-saxons, et moi je pense particulièrement à George Orwell et surtout Samuel Fuller.
Fuller, voilà. Oui.
Évidemment,
oui.
Grand, hein. Comment ça se passe, parce que ça, en plus on a l'image d'un personnage très fort en gueule, d'un dur à cuire. Comment ça se passe de travailler avec Samuel Fuller?
Fuller, formidable aussi, c'est une espèce de, d'attirance. Moi, je suis arrivé à tourner, sauf avec Eastwood, je suis arrivé à tourner avec quasiment tous les metteurs en scène, Lozay, Roy Hill, Fuller, avec des metteurs en scène, John Berry. Je suis arrivé à tourner avec des metteurs en scène que j'admirais, sans avoir à les solliciter, une espèce de hasard et coïncidence, d'attirance au travers le temps et au travers de la cinéphilie, le cinéma, à travers le ciné. Donc les gens que j'admirais, finalement, ils m'ont demandé de travailler avec eux. Alors il y a toujours un réseau d'amitié intermédiaire. Et je suis même arrivé jusqu'à Eastwood, que j'ai connu, que j'ai pratiqué. J'aurais souhaité, pour moi, c'est le meilleur metteur en scène actuel depuis la mort de German. Mais donc toutes ces, tout ce qui est intéressant au cinéma, c'est la rencontre et l'idée du mariage. C'est, est-ce qu'on se marie avec quelqu'un? Est-ce qu'on rentre dans la tête de quelqu'un en lui donnant à voir ce qu'il a envie de voir? Ou est-ce que ça ne se passe pas? Il faut juger a priori si c'est possible ou pas. Fuller, c'était génial parce que alors, il était bluffé, je connaissais sa filmo par cœur, hein, de tous ses films noirs, justement aussi, au Jugement des Flèches, qui était au film de guerre, je connaissais ça par cœur, et ça a été un enchantement pour moi. Enchantement, tournée de nuit au Portugal, en anglais, c'était absolument tout à fait Bill Duke, et tous ces types. C'était un petit bonhomme qui était quand même un tueur, qui avait débarqué à Omaha Beach, à 3e vague, et tout ça, qui était un journaliste, un dur à tuer, qui avait peur de rien, et qui adorait les grands mecs. Qui était un mec qui adorait tout. Il était entouré de géants. Là. J'étais plus petit, moi, les mecs qui étaient autour, il y avait un mec qui était plus petit, 1m90, j'étais plus petit. Et il adorait ça, les grands mecs. Et surtout, il était ouvert, c'est-à-dire que, contrairement au cinéma d'auteur, c'est un vrai auteur pour moi, il y avait l'idée, dis-moi ce que tu en penses et je vais faire avec. Propose-moi quelque chose. Quand je revois le film là, qu'on a fait avec Karadim au Portugal, je suis toujours un petit peu bluffé là, de la disponibilité du mec et de la jubilation. Le mec, quand on voyait les rushs, la jubilation de côté, heureux et puis heureux, tout le monde. Le type était très, très, comment dirais-je, très communicatif dans son enthousiasme.
Vous avez aussi bossé avec un mec, moi, que j'adore, un metteur en scène que j'adore et qui est un peu tombé. Aujourd'hui, on en parle beaucoup moins, mais s'il continue à faire des films, c'est Jacques Brel.
Formidable, vraiment un grand metteur en scène. Formidable, donc pareil. Très, très belle collaboration, un monde différent du mien, le monde de la nuit. Amoureux, il a fait un film qui s'appelle Polar, d'ailleurs, c'était rigolo. Et sa boîte de prod, quand j'ai commencé avec lui sur... Quand j'ai commencé avec lui sur son film, là, c'était film noir. C'était les films noirs. Il m'a bluffé parce que j'ai toujours été assez occupé. J'étais en 77. Je lui ai dit, écoute, je suis pas libre. C'est intéressant. Il m'a filé un scénario énorme. Je lui ai dit, je serai pas libre avant 18 mois. Il m'a dit, je reviens te voir dans 18 mois et on fera le film. Et il est venu 18 mois jour pour jour sur un plateau où j'étais. Je lui ai dit, tu m'avais dit dans 18 mois. Et là, j'étais emmerdé parce que j'étais sur la préparation d'un truc avec justement Piala et machin. Ça a été très, très difficile. Et encore une fois, je suis parti de Loulou parce que j'avais promis, pour résumer, quoi, parce que ça a été une longue histoire compliquée, je ne pouvais pas partir et tout. Et on a fait ce Extérieur Nuit qui était un film. Pour moi, c'est fait partie des beaux films dans lesquels il n'a pas choisi la meilleure technique, il voulait qu'il y ait du grain, il voulait que ça soit sale. Donc c'est marrant de faire des essais d'images qui soient une image que l'on dégrade a priori en disant c'est ça que je veux, ne te fais pas chier. On fait du 16, super 16, on va le gonfler, je veux du grain, je veux que les noirs ne soient pas neutres, tout ça. Et il s'est tenu une forme de rigueur de d'image. Et alors, comme par hasard, c'était du cerveau, boisson et leur vin, quoi. En plus.
Plutôt aborder le côté de votre carrière en tant que réalisateur, en dehors de votre carrière de directeur de la photo. Effectivement, il y a un thème qui revient souvent, je trouve, dans votre cinéma, que ce soit le Cheval de Fer, Terminus. Bon, le Cheval de Fer, j'ai pas vu, hein, mais Terminus, que j'ai vu, le film qui se passe aussi pendant les 24 heures du Mans Moto, tout ça.
23h58.
Voilà, 23h58, que je trouve d'ailleurs très bon. Mm-hmm. Et on sent une attirance chez vous pour les, voilà, pour les gros cylindrés, les véhicules, la vitesse, tout ça, voilà. Mmh. Est-ce que vous partagez ce point de vue?
L'attirance pour la vitesse, c'est évident, oui, oui, l'attirance pour les deux roues, oui, bien sûr, oui, oui, oui. Mais c'est lié d'ailleurs, puisque en fait, la moto, c'est un engin à deux roues, donc qui n'est pas rationnel, puisque ça ne tient son équilibre que dans la vitesse, ça ne prend son équilibre que quand ça bouge. Donc c'est pas quelque chose qui peut être à l'arrêt pour un trépied, donc l'idée de la vitesse, plus on va vite, plus on est en équilibre, donc cette idée des motos, donc après on fait des théories, en fait c'est un sentiment que j'ai toujours eu, c'est l'idée de la vitesse et de la puissance de ce qui vous anime, quoi. Alors bien sûr, la moto est l'objet pour ça. C'est le moyen, c'est pas seulement un moyen de transport, c'est pas seulement ça, c'est une manière de bouger dans l'espace, d'avoir quelque chose qui est comme un prolongement de vous et qui vous laisse à l'air et qui vous met en danger. Donc j'ai toujours aimé ça. Voilà, donc l'idée de se mettre en danger, c'est quelque chose qui est pour moi constitutif, qui devrait être constitutif des gens qui devraient pas avoir peur. Alors, j'ai filmé ces gens-là depuis très longtemps, c'est à un moment où c'était plutôt beaucoup plus mortifère que maintenant, où tous ces gens, quand les films sont morts, ou en course sur la route, ils vivaient vite, et dans lesquels la notion de risque de mort était au départ. C'était la règle du jeu. Donc j'ai toujours été intéressé par les gens qui n'ont pas peur et qui avancent. Donc ça, c'est... Alors après, moi, que je regarde, que je sois dans ce type de sensation-là, c'est évident, c'est lié à... Vitesse, c'est lié au parachutisme, des choses que j'aime, mais sauter, aller vite, et à un endroit, se diriger vite vers un endroit où on sait qu'on veut aller. Bon, j'ai toujours vécu comme ça, quoi. Oui. Et quant à l'idée de la puissance de la moto, la puissance du moteur, c'est peut-être c'est le moteur interne, ça vous bouge comme vous sentez bouger. C'est que vous regardez un Grand Prix de MotoGP, là maintenant, je regarde tout le MotoGP, je trouve ça complètement. C'est, pour moi, le spectacle ultime, c'est assez génial. C'est de devoir penser une millième de seconde. D'être, c'est pas tellement d'aller à 350 à l'heure sur une moto, c'est de courir contre des gens qui vont à la même vitesse que vous et donc de devoir anticiper, de savoir comment. C'est une espèce d'absolue finesse de la sensation. Qui pour moi, d'absolue finesse de la sensation. J'ai des potes qui font ça un petit peu, qui peuvent faire l'avion. Mais moi, je suis nature, c'est-à-dire la sensation physique. J'aime bien, j'ai toujours aimé, j'ai pas eu beaucoup de voitures dans ma vie, d'abord quand je me déplace pas, j'ai pas de bagnole, mais je me déplace toujours en moto, et bon, avec le temps, comme on est un petit peu cassé de partout à un moment, donc on va moins vite, pas sur l'idée, moins vite, sur l'idée du temps qu'on va mettre à récupérer qui est plus lent.
Le temps forme encore quand même, hein.
Vous êtes en forme. Relativement.
Voilà.
Je voulais vous poser. Hier, j'ai vu Bob Dylan hier soir qui a 72 ans, qui a tout abusé, ce que j'ai pas fait de tout, quoi, des femmes, de l'alcool, de la drogue, tout ça, des excitants, tout ça. Et puis en fait, à 72 ans, 2 euros ex, donne une énergie qui est tout à fait profonde. C'est les croix de la nature. Ça. Les gens, ils sont toujours malades, et toujours. Et qui ont peur de tout. Et puis bon, moi, je ne fais pas partie de cette catégorie de gens.
Et donc, c'est un bon concert, alors, parce qu'il paraît que ces derniers étaient moins bons.
Bah, c'est très très inventif quand on connaît un peu ce qu'il fait. Il ne fait jamais pareil là depuis. Il fait 150 quand même, un mec qui a 72 pays, il fait 150 concerts par an. Il se balade dans son camion 200 jours par an, donc il a toujours une idée quand même d'aimer ça. C'est-à-dire qu'on dit, alors c'est vrai que par rapport à des gens, là je vois des gens qui ont vu là, les 3-4 qui se déplacent avec lui tout le temps, qui sont des fanades comme ça. Il y avait une vraie communion hier sympathique, il était vraiment heureux d'être là. Et il y avait, à mon avis, une réinvention. Moi, je ne savais pas. Bon, c'est beaucoup plus sur une base de rock'n'roll que ce que je connais. On va écouter de la country et c'est tout. Et il a un orchestre assez étonnant, de mélange de voyous, pas possible, enfin de caricatures d'orchestre de Tony Gatliff. Et puis le mec est extrêmement musique savante, avec un mec qui joue du violon, qui fait de la sitar, tout. C'est assez marrant. Mais c'est vraiment très original. Et j'ai trouvé beaucoup plus. Et il s'amuse avec sa voix, surtout. Ce qui est marrant, c'est Dylan maintenant, c'est qu'il s'amuse avec sa voix. Il s'amuse beaucoup, il recoule, tout ça, c'est assez cocasse. C'est marrant, il a fini sur Blowing in the Wind. Personne n'a reconnu, si on ne connaît pas ce qu'il dit, et si on ne connaît pas les paroles, on ne peut pas reconnaître Blowing in the Wind. C'est formidable.
Par rapport à votre travail de réalisateur, j'ai vu que vous aviez votre premier cours s'appelait La Marelle.
Oui.
En 74, qu'est-ce que c'était la Marelle? Donc ça parlait de quoi?
Oh, la Marelle, c'est un film fantastique. Ça va vous plaire, le format. C'était un film fantastique, c'était sûrement avant 74, mais d'accord. Et la Marelle, c'était un jeune Marelle, donc une Marelle avion, avec deux enfants qui jouent à la Marelle, et tout ce qui constitue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, retourner, venir, tout ce qui constitue la Marelle, c'est des têtes de mecs, gros, de couleur, des têtes de gens. Et en fait, il y a un principe d'attirance de deux petites filles. En fait, c'était, alors c'est marrant, c'est longtemps, c'était la fille de les deux filles de Jacques Loiseleux, dont lui est devenu monteuse de Oliveira, donc, et puis qui a fait une carrière de monteuse, donc c'était une gamine. Et c'est Gérard de Sartre, l'acteur, là, qui était un ami, qui est resté un ami. C'est Gérard de Sartre qui s'amène et qui leur demande de jouer à la Marelle. Et il manque une case dans la Marelle. Donc ils jouent comme ça, et puis les petites filles, très gentiment, mais de manière très passive, disent « faut pas chanter la chanson ». Et bien sûr, c'est une chanson magique, et quand il arrive sur sa case en haut, la Marelle s'ouvre, et on voit que tous les mecs qui ont été là ont été attrapés dans cette Marelle magique, et il y a sa tête qui se surimpressionne sur la Marelle, et il dit « les petites filles, on a fini notre Marelle, on va en faire une autre ». Voilà, c'était ça.
En fait, vous êtes aussi un passionné de fantastique, parce que ça
fantastique et science-fiction, oui. Fantastique et science-fiction, bah oui, vous avez vu Terminus, pareil, il y a des grosses machines, il y avait des VMAX, il y avait un Kronstadt.
C'est Terminus, c'est un film énorme. Ouais. Comment vous vous retrouvez sur une coproduction comme ça,
J'avais un copain qui était de la science-fiction, je voulais faire ça avec le rôle de je voulais faire ça avec Yves Montand. On est parti là-dessus, et puis Yves Montand, il a dit oui, et puis après, enfin, c'est passé, qui fait que c'était la référence cinématographique au Salaire de la peur. Et à ce moment-là, on avait pensé, moi je voulais Yves Montand, Alain Delon, et puis les deux, Montand, il m'a signalé par Simone Signoret, j'étais lui faire lire le livre, il tournait le film de Berry, là. Malon des sources, le film là,
Jean-Florette,
il a été le voir là-bas, et donc il a pris le scénario, il l'a fait lire à Simone. Bon, il trouvait que son rôle n'était pas assez important, donc c'était le premier, et je voulais un passage de témoin d'un mec à l'autre, et puis ça a évolué comme toujours, pas terrible. J'ai eu une proposition, il y avait Hallyday, qui était pour moi un type très 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 intéressant, parce que c'est une icône, une idole, et je voulais en montrer le côté, en faire un anti-héros, donc c'est ces côtés un peu ma boule de l'auteurisme, en faire un anti-héros, et comme j'ai pas eu mon temps, j'ai inversé le sexe du personnage, et donc c'est Karen Allen que j'ai été chercher avec Johnny, et qui était en train de tourner une série, après donc les aventuriers de l'âge perdu, avec qui ça s'est plutôt vachement bien passé, comme toujours dans le ciné, c'était assez simple. Quand je dis simple, on tournait, était fatigué, du temps de tournage, j'ai dit vous êtes des bonnes personnes, Johnny était voulu venir avec moi. On a été la voir jouer la ménagerie de verre avec Jane Woodward à New York, et puis Et puis ça a marché, donc ça s'est fait comme ça. Donc après, le film s'est monté sur de l'argent allemand. J'ai eu tout de suite une copro allemande et puis une copro américaine avec Gibson et Daly, les gens qui avaient fait Platoon, qui sont engagés avec le distributeur français, donc Johnny. Donc ils s'étaient là-dessus. Donc après, c'est voilà. Donc j'avais un petit budget, tout est relatif, pour faire un film aussi important. C'est tourné en Hongrie, à Munich, une grosse coproduction allemande. Et mon pari, ça a été d'aller chercher Jürgen Prochnow, donc qui est le personnage du film, qui raconte l'histoire, quoi. C'est qui raconte le clonage, qui raconte une perte. Le problème, c'est que quand j'ai retiré une demi-heure du film, plus personne ne comprend ce que je raconte. Et j'avais un scénariste, Patrice Duvic, et plus c'était abstrait, plus ça lui plaisait. Et moi, je me suis laissé aller à mes penchants un peu abstraits, cérébraux, donc j'ai retiré une demi-heure, donc qui fait que personne ne comprend qu'un type qui essaye de se cloner lui-même à l'infini en faisant des expériences sur des enfants, ce qui était simple à expliquer, et qu'il y a une grande somme dans l'image, et quelqu'un qui a compris qu'il fait ça à l'occasion d'un jeu truqué, comme un Paris-Dakar truqué. Et il y a quelqu'un qui a compris que le jeu est truqué, on amuse des enfants pour les prendre et essayer de cloner, et les seules expériences qui ont pas marché, c'est sur un petit môme qui était Matt Damon, qui était Gabriel Damon, qui jouait dans les Spielberg. Donc ce qui fait qu'on avait un peu de pognon avec les Américains, voilà, pour que je suis arrivé à monter ça comme ça, sur ma prod à moi, et puis bon, ça a pas été un gros succès, loin de là. Mais enfin, par rapport à ce qu'il fait maintenant, ça serait un énorme succès, par rapport aux films de merde qu'on voit là qui sortent et qui restent pas. Donc. Mais et en plus, donc l'idée de vouloir inverser, je pense que c'était une mauvaise idée. J'étais beaucoup moins fort que Johnny du point de vue de la représentation, et Johnny, c'est quelqu'un que l'on voit en héros, et donc l'idée que l'on voit en personnage héroïque, est l'idée que ça soit le personnage qui va laisser tuer sa femme, qui ne fait rien, qui subit le jeu des enfants et qui a juste comme aspiration laisser les enfants jouer, qui est le côté sympa du personnage. Ça, personne n'avait pu comprendre. C'était quand même un petit peu abstrait dans ce que ça racontait, et du héros qui était un anti-héros, et des femmes qui menaient l'histoire. Des femmes et des filles. Alors maintenant, je ferais ça. Je serais beaucoup plus radical, c'est-à-dire que je ne couperais pas la demi-heure plus explicite qui donnait ces indications. J'insisterais sur le personnage de Prochnow, c'est-à-dire le docteur, le mercenaire et le savant, qui est la même personne, et personne ne voit que c'est le même, il est tellement génial, personne ne voit que c'est le même. Et surtout ce qui est son labo d'expérience avec le fœtus, donc il essaye d'un type qui essaye de se cloner lui-même à partir d'enfants, donc il a besoin d'un trafic de sang. Toutes ces choses-là sont révélées après. Mais c'était un petit peu trop avant-gardiste par rapport aux gens et par rapport à la France et par rapport au côté forcément réflexif intellectuel qu'a le cinéma européen par rapport aux Américains qui se posent pas ces problèmes-là. Sauf quand c'est Ridley Scott, sauf quand d'autres moyens par ailleurs. Mais c'est pas le problème de moyens, hein. C'était le problème de bien être ferme sur les prix. Il avait été acheté en Amérique, après il y a eu un procès, ils n'ont pas voulu sortir le film, pas parce qu'il n'était pas bien, mais il y avait des accords que je ne connaissais pas, donc ça a été chiant, enfin bon.
Bah, ça a été une expérience un peu compliquée alors, parce que moi je me souviens aussi que ça a été peut-être pas compris, parce que ça a été vendu comme une sorte de Mad Max à la française.
Alors c'était le contraire, mais ça contrôlait ça, et je comprends bien les mecs comme Kubrick. Mais l'idée Mad Max française, c'est quand même, il faut voir que c'est quand même 20 fois plus de moyens, donc c'était pas l'idée. C'est l'idée de faire un film de genre en transgressant. C'est-à-dire faire un film de genre avec une réflexion, c'est-à-dire il y avait quelque chose qui n'est pas un film d'action, c'est pas un film d'action. C'est un film, je veux dire, de quête. C'était une quête, c'était un conte, une quête d'un type qui cherche lui, qui était Johnny, qui se trouve pas, qui tombe amoureux de quelqu'un qui va faire tuer par la conséquence. Donc c'était une idée beaucoup plus tragique. Hein, et une idée de liberté du jeu avec des enfants qu'on ne pouvait pas faire chier, donc voilà, c'est ça. Et ça, cette idée-là, j'aurais dit ça, ça aurait été plus facile, j'aurais donné les éléments. À chaque fois que j'allais présenter le film, ça marchait vachement bien. Quand j'ai raconté un peu ce que c'était, quoi, j'ai dit, bon, voilà, on va vers du clonage, j'avais vu le mec qui faisait ça, ils avaient arrêté un clonage humain, j'ai dit, bon, on va vers ça, est-ce que c'est intéressant de se cloner soi-même, d'avoir des doubles, est-ce que c'est intéressant d'élever des enfants avec l'idée que ça va être une reproduction de vous, est-ce que c'est vraiment intéressant? Je crois pas, mais regardez où ça mène, donc voilà la logique de ça. Donc, quand j'ai passé ça à la Cinémathèque, c'était super, ça s'est bien passé, j'avais ma fille dedans, donc j'étais content du film. Hein. J'étais content du film quand je l'ai eu fini en 2h25 et puis il est sorti revenu 2h10 pour faire 5 séances par jour. J'ai cru que comme ils avaient mis beaucoup de pognon, j'étais pas en forme. J'ai dit à ce moment-là financière où j'avais tout, j'ai perdu tout ce que je possédais à ce moment-là. Et j'ai mis 9 ans à rembourser ce que je devais.
Ah oui, ça a été à ce moment-là.
C'est pas assez chiant, quoi. C'est un peu chiant. You're my only confident and my only friend. Together we will share everything until the very end.
Et justement, dans Terminus, il y a aussi moi, ce que j'aime bien dans Terminus, c'est qu'il est différent aussi de vos autres travaux au niveau de la photo. Il y a une photo vachement bleutée, vachement très particulière, je trouve, dans ce film.
Oui, il y avait plein de choses que j'ai pas. Il y avait plein de choses que j'ai travaillé avant. J'aurais dû faire mieux en photo. J'aurais pas dû prendre un type que j'avais formé, mais un mec qui m'amenait quelque chose. J'étais beaucoup plus sur le contrôle à ce moment-là. C'est un film qui était entièrement storyboardé. Donc il y avait des trucs compliqués. On avait le grand studio, tout ça. Donc il y avait toute une idée. Il y avait les premiers varilines, vous savez, les premières lampes de scène qu'on voit partout maintenant. Il y avait tous les points comme ça qui bougeaient dans tous les sens, qu'on pouvait filtrer. Il y avait un principe de lumière qui bougeait d'énormes, quand des trucs comme ça qui étaient ça, mais qui n'est pas expliqué, quoi, qui n'est pas lisible. C'est lisible pour quelqu'un qui voit, mais il faut que quelqu'un qu'on puisse. Et c'était bon, ça c'est pas, j'aurais dû aller plus loin sur l'interprétation. J'aurais dû faire moins saturé, j'aurais dû plus jouer là-dessus. Et j'étais pas directeur photo, hein. C'est-à-dire que moi je fais des films, je suis vachement chiant pour le chef d'op, mais en même temps je l'ai pas fait moi. Et j'aurais dû prendre un type qui n'était pas Jean-Claude, qui est un type qui a bossé 30 ans avec moi, mais qui ne m'a pas amené quelque chose, qui a juste fait, qui ne m'a pas interprété plus avant, qui n'était pas assez fan de science-fiction.
Jean-Claude Vicry, c'est ça?
Oui. Donc il a fait ce film, et puis bon.
Parce que, et moi je me rappelle aussi dans l'aspect visuel du film, des visions complètement folles comme l'ordinateur central de monstre ou des choses comme ça. C'est dément. Vous avez bossé avec Bilal sur le film,
Bilal, il fait la déco, il devait me dessiner les costumes, et puis il a fait, il m'a fait la déco de Kronstadt, là, de la ville libre, comme une libre de Kronstadt. Vous voyez,
et Kronstadt, c'est pas un choix au hasard.
Si, bien sûr. Si, bien sûr que c'est un choix délibéré, oui, bien sûr. Et c'était New Kronstadt. C'est un New Kronstadt dans lequel tout est libre, tout le monde fait ce qu'il veut. Alors, c'était encore une fois pas assez interprété du point de vue de la couleur. J'avais un beau boulot de déco, mais c'est pas assez interprété du point de vue de la couleur, et puis c'est pas assez. C'est pas assez baroque. C'était pas mal, mais l'idée du décor était belle. L'idée de la mise en scène n'était pas une mauvaise idée, mais j'ai pas été assez loin. Donc il y avait toute une idée très décorative, avec les mecs, tout ça, la licence et tout. J'aurais dû mettre peut-être un petit peu plus de sexe. Ça aurait été un peu plus évident. Et donc c'était transgression, mais transgression décorative. J'aurais dû être un petit peu plus hardi là-dessus. Mais ça, c'est facile. Quand on a fini, on dit toujours, voilà ce que j'aurais dû faire. C'est pas dur.
Ouais, mais bon, ça a été un travail de titan aussi.
C'était compliqué. Ouais. Longtemps de tournage. Le côté BD marche. Le côté BD, dès qu'on arrive dans le fort, ça marche bien. Et puis le rapport entre la vision de l'ordinateur et puis la vision réelle, ça marchait bien. C'était la première fois aussi. C'est pas mal.
Ah oui, carrément.
Donc tout ce qui est fait là maintenant, numérique, les caméras, tout ça, maintenant, je fais un truc d'enfer là-dessus. Surtout mes effets spéciaux, je pourrais faire tous les effets spéciaux images, je pourrais les refaire.
Il faut le faire. De la façon dont vous en parlez, je sens que vous avez vraiment envie de le faire. J'ai été tenté un moment.
C'est-à-dire l'idée de, par exemple, la course, l'idée du football américain, c'est de progresser et d'empêcher une progression. Ça, les gens ne connaissent pas. C'est les gens en Europe, ils ne connaissent pas le football américain, ils ne savent pas le principe de la progression. Et puis d'essayer à chaque fois que vous avancez, il y a plus de gens qui essaient de choper le camion. Et l'idée d'amuser les gens avec ça pour faire un trafic de sang, c'était une bonne idée. Ça marche. Le scénar est bien. Le scénar est bien. C'est moi qui n'étais pas bien. J'étais pas assez incisif à ce moment-là.
Pourtant, vous sortiez d'un film, je crois que c'était Les Enragés.
Oui, mais ça, j'ai réussi.
Ça, c'est pas pareil.
Ça, c'est pas pareil parce que c'est à la fois beaucoup plus facile et c'est des trucs d'acteurs que je connais vachement bien. Ouais. J'ai toujours été. avec les acteurs. Donc j'ai toujours de bonnes relations avec les acteurs, quels qu'ils soient. J'ai été au cours, j'ai été maquillé avec une fille qui fait du casting, grande actrice de théâtre et tout ça. J'ai toujours été actrice, acteur, j'ai toujours été très, 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 comment dirais-je, les acteurs savent que j'ai un œil, et puis j'ai regardé, j'ai magnifié les dessins, je sais faire. Et sur Les Enragés, il y a eu un petit problème avec Cluzet, mais c'était sur la violence, là, c'est encore une fois de la violence, mais de la violence de sentiment. Et ça, le scénario était génial, c'était Gérard Brach, une fille qui prend le pouvoir sur deux mecs qui la torturent, donc une idée très perverse et vraiment accomplie. Et les trois acteurs ont été à fond, Truffaut mourait à ce moment-là. Ça, c'est vraiment des souvenirs de tournage à la fois d'une extrême pénibilité. J'étais épuré, j'ai dormi 15 jours quand j'ai fini le film, mais avec des rapports très, 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 très passionnels avec tous les acteurs, les trois, Milo, là, qui était génial, et
Fanny Ardant, qui était extraordinaire.
Fanny Ardant est formidable. C'est formidable. Et en même temps, elle a joué beaucoup avec ce qu'elle vivait là-dessus. J'étais un petit peu, comment dirais-je, abusif quand même dans ces choses. Et Truffaut est mort pendant le tournage, on savait qu'il est mort pendant le tournage, donc c'était vraiment... Et tout ça est en film.
C'est vrai que vous avez aussi pas mal... Je l'ai un peu éludé tout à l'heure au début quand on parlait, mais c'est vrai que vous avez aussi beaucoup travaillé, vous avez travaillé avec Truffaut, on a à peine parlé de Lozé aussi, mais des grands...
Oui, alors que c'est le mieux. C'est l'énorme metteur en scène, mais ça c'est le metteur en scène qui m'a le plus impressionné. Justement, parce que c'était, pour moi, c'est le plus grand metteur en scène qui j'ai bossé.
Ah ouais, plus grand que Fuller, plus grand que...
Oui, du point de vue de l'intelligence, l'intelligence du cinéma, l'intelligence du mouvement, l'intelligence des acteurs, l'intelligence donc de la mise en scène et voir le détail, dans le général, ça c'est le mec qui m'a totalement énervé. Et moi qui pensais qu'il était un mec, j'ai le cadre, hein, et il voyait plus que moi. Il m'a dit, on a fait 2-3 paris comme ça. Il m'a dit, vous devez accrocher là, Dourveldi, vous devez accrocher. J'ai dit non, il m'a dit, on va tirer la prise, on la refait quand même. Et puis c'est lui qui avait raison, il avait un truc que j'ai pas vu, alors que je suis au cadre et qu'il est à 10 mètres. Et vous devez l'accrocher, alors il n'y a aucune probabilité qu'il le fasse. Et pareil, donc c'est un type, il était. Alors aussi pareil, une espèce d'alchimie. Une espèce d'alchimie sur un tournage, mais qui savait tout, il savait rien, il avait des yeux, il savait regarder. Étonnant. Ce qu'il a fait de Delon était stupéfiant, tous les acteurs étaient stupéfiants, et puis il y avait quelque chose d'étonnant. Voilà, ça c'est sûr. J'ai regretté de ne pas faire son dernier film. Il m'a demandé de faire son dernier film, j'étais en prépa des Enragés, là, qui était le film là, qui, qui était à Londres, et il m'a demandé, je ne pouvais pas. Et après, il a fait La Truite, et La Truite, j'ai refusé, avec une connerie noire, et le film n'est pas bon. Mais... J'aurais été avec Lozé, ça aurait été bien, c'est Alcan qui le fait. J'ai regretté ça.
Oui, c'est vrai que Lozé,
c'est... extérieur, il m'est engagé avec mon ami Émission là, pour Ronde de nuit.
Ronde de nuit.
Alors, c'est pas que je regrette d'avoir fait ce film-là, c'est que je regrette de ne pas avoir fait le dernier film de Lozé. Après, il est mort, et puis après, on ne les voit plus.
Ouais. Ah oui, c'était pas... C'est pas le fait de travailler avec Mission, c'est le fait de perdre un copain. Quoi. Bah, ouais. Alors... On en a un peu parlé tout à l'heure, mais en 95, vous signez, enfin moi dans ce que j'ai vu en tout cas, pour moi votre meilleur film, votre film le plus abouti, c'est 23h58, avec, on ressent vraiment justement cette influence du film noir à l'américaine, un côté thriller, et en même temps, bon, il y a de nouveau les grosses cylindrées, mais est-ce que ce film-là, c'est votre plus réussi, peut-être parce que c'est vous qui l'écrivez aussi, celui-là?
Oui, je ne sais pas si c'est le plus réussi. Enfin, c'est le
c'est ce que je pense, fait. Moi, après.
Je ne sais pas. Moi dans les films, moi, j'ai eu un drame avec l'acteur principal que je ne pouvais pas supporter. Donc, quand on voit le film maintenant, donc, ça a été difficile parce que c'était une mise au pas de cet acteur-là, Steve Nain, qui était un très, très mauvais acteur qui pensait qu'il a été bourré tout le film. Et comme c'était un film qui jouait en huis clos, donc il a été... Alors, ça se voit, il y a une scène qui est assez jolie. Avec le recul, comme il n'a pas fait ce que je voulais, j'avais un truc où je contrôlais tout. J'étais ravi, c'était une entreprise totalement démente, quoi, parce que c'était un huis clos sur un circuit de moto et 80 000 personnes. Et donc, c'était une idée très cinéphilique aussi. Et c'est pour ça que j'étais content de parler de Kubrick et de Killing ce matin. Là, c'est des types qui font Halle 2 pour 24 heures du Mans en copiant un film de Kubrick. sans comprendre qu'il copie une tragédie, que ça se termine mal pour les gens. Il copie ce qu'il pense qui marche, mais il ne pense pas que le film, s'il copie un film, il rentre dans autre chose, dans une magie noire. Donc, et ça, donc, c'était l'idée du film. Et puis le mec qui arrive, qui fait l'enquête, qui est cinéphile, qui a raté sa vie, qui est flic, mais cinéphile, il se rend compte que il a vu ça dans un film, et puis, il cherche la personne qu'il ne veut pas trouver, qui est son double, qui a réussi sa vie, qui est devenu pilote moto. Ça, c'est encore une fois. Alors ça, j'ai écrit complètement. J'étais, et puis donc la gageure, c'était de tourner ça pendant 36 heures sans arrêter, avec 8 caméras synchro, 35. Et ça, c'était super.
C'est un exploit, ça.
Ça, c'était super. Oui, après, j'ai pas pu tourner les scènes de violence, là, de cascade, que j'ai dû refaire 15 jours après, et puis je me suis planté sur le rôle principal, sur Catherine Ribeiro, que j'ai supprimé, donc, et je retournais après, comme je suis complètement... C'était le film le plus court, l'histoire du ciné, puis on devait retourner 136 heures avec tout ça. Puis après, c'est devenu le film le plus long, parce que ça ne me plaisait pas, j'ai dit, il faut retourner. Ce qui est Catherine Ribeiro, il faut le remplacer par un enfant, le monde, il va aller vers... Il va faire solde, puis je ne sais pas pourquoi, mais pour donner le pognon à une petite fille et tout ça, donc qui est l'orpheline de son pote qui s'est tué. Donc tout ça, c'est que des histoires vraies. En plus, c'était un peu une américaine. Donc j'ai du mal. Voilà. Et là, par contre, là, le film, je l'ai bouclé. Là, j'ai bouclé, j'ai fait ce que j'ai voulu. Ça a été très difficile aussi en preuve, parce que la productrice ne voulait absolument pas que je supprime les personnages féminins. Il remplace par la petite fille, donc j'ai repris le film. Il faut que je vole le film. Le finis à mes frais, et puis il n'y en a pas voulu qui filme sort, donc c'est des films un peu... C'est pas maudit, mais c'est chiant, quoi. C'est des trucs... Ça, ça avait aussi un potentiel, on verra bien si le film est bien. Moi, je suis pas très... Bon, fou, il me manque rien. Si on arrive à faire ce qu'on veut, il faut pas dire qu'il me manque quelque chose. Donc je suis arrivé à faire le film, pareil, emmerdement, dette, beaucoup d'animosité avec la productrice. Elle a réussi à ce que le film ne sorte pas, alors qu'elle avait des moyens de sortir bien, et donc tout ça... On paye, mais si le film est bien, là... Ils ont ressorti Le Cheval de Fer 30 ans après, j'ai ressorti en 2004, c'était un énorme succès.
Terminé quand même sur une note fantastique, parce que j'ai vu, ça c'est... que vous avez signé en 2010, The Sad and Lonely Death of Edgar Allan Poe.
Ah, c'est génial.
Ah, est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur ce court-métrage? Parce que moi, Edgar Poe, c'est un auteur qui me parle déjà. Et
puis, alors là, vous me séchez, là. Là, vous me séchez, là. Ça, c'est vraiment bluffant, ça. Mais ça, je vous le passerai. C'est très, 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 très étonnant. Je suis très lié au festival du film français de Richmond. Puisque moi, disons que la moitié de ma famille, une bonne moitié de ma famille est américaine, et donc le père de mon père, toute sa famille sont des Virginiens depuis le XVIIe siècle. C'est la fin du XVIe siècle, c'est 1720, c'est le XVIIIe, et donc ils sont enterrés à Richmond. Quand j'ai été là-bas, pour la première fois, ça a été un drôle d'effet parce qu'ils m'ont raconté l'histoire de mon grand-père, m'ont donné un arbre généalogique que je connaissais finalement pas. On m'avait dit ton grand-père était de Virginie, tout ça. J'ai un grand-père qui est en Mississippi, le père de ma mère, et puis l'autre, alors c'était un petit peu marrant. Donc. Et je suis arrivé au bout du temps, je suis arrivé d'abord à devenir assez lié avec les gens qui organisent ça, et je suis arrivé à faire à mes élèves du département images 6 courts-métrages avec, en film, 35, avec une Pénélope Delta. Et donc, il y avait, dans ces films-là, alors bien sûr, la vie, elle fait que ces cons à la fémis ont écrasé tout ce qui sortait, j'avais qu'un négatif, et j'ai pu sauver la vie et la mort d'Edgar Poe, avec, bon, que j'ai remonté le film, c'est une élève d'image, le film était assez bien, et c'est une actrice qui est partie à Hollywood, et un acteur là-bas, et on a refait donc une idée... d'après une nouvelle d'Edgar Poe, on a tourné là-bas, dedans, un train sudiste et tout, une réincarnation, qui était quelque chose d'assez bluffant, on rencontre dans un... Et avec une idée de réincarnation typiquement fantastique de Poe. Et qui était, alors pareil, on a tourné ça relativement vite, mais vachement, vachement bien. Et là, le film était perdu, j'ai retrouvé un montage du film que j'avais, on va dire, pour le moins aider, mais que j'avais fait, finalement. Et je suis arrivé à récupérer le négatif, refaire un tirage, et j'ai eu une copie de ça. Parce que le festival de Richmond qui m'avait aidé, Et on l'a passé avant le festival, donc avec tous les élèves, et tout, enfin les élèves de là-bas et puis ici-là. Alors ça, effectivement, je peux avoir une copie, ça vous fera marrer, et puis alors, c'est en anglais, bien sûr, mais c'est vraiment pas mal.
Ah bah oui, carrément.
Ça, c'est rigolo. L'acteur est super, et puis c'était vraiment tout à fait de peau. Et donc, dans tout ce qu'ils m'ont raconté de ma vie, à moi qui est assez, des fois, c'est un peu fantasque, c'est que mon arrière-grand-père, c'est-à-dire ils m'ont sorti à Richmond, comme quand les Américains font les choses, ils font ça comme des fous. Ils m'ont sorti toute ma généalogie, ils m'ont fait voir toutes les maisons que mon grand-père avait habité à partir de 1908. Son mariage américain, c'était marié en Amérique, venu en France, avec ma grand-mère. Et toute ma famille américaine, ils m'ont fait découvrir et ils m'ont appris que le père de ce mec-là, de mon arrière-grand-père, c'était un pote d'Edgar Poe. Comme mon grand-père était un pote des Minuai, donc il y a un correspondant de guerre américain, Kenneth Glenn, qui est enterré dans le Wyoming maintenant avec sa famille américaine. Vous voyez donc, alors, histoire, ça fait une longue histoire pour dire des trucs qui sont rigolos, mais qui ne sont pas chiants, parce que c'était... Et donc, ils m'ont sorti un journal de 1902 en expliquant que le père de mon grand-père était mort, qu'il avait connu le Garpo, qu'il avait connu quand il est mort en 1947. Ouais, ça m'a fait sécher. J'ai dit, merde, les mecs, ils ne se connaissent pas. Enfin, c'est pas des feignants. Et avec photo, tout, c'était... Et il m'avait sorti des duplis de la bibliothèque de Richmond sur des journaux de 1902. Merde. Et sur le grand-père, quand le grand-père est mort, qui était un aventurier, grand-père, là, qui a fait les deux guerres, capitaine en 14, donc il m'a marié en 20, et puis qui est revenu, et puis qui avait une famille française. Donc je suis un rejeton.
D'accord.
Voilà. Donc ça fait une longue histoire sur Edgar Poe, mais il faut dire que ça remonte à longtemps. Et que je suis arrivé, là, cette histoire de court-métrage, là, était vraiment... Et elle avait tourné comme série noire, là, vite et bien. Là. La fille était magnifique. Elle avait plein de... Ouais, c'est marrant. Marrant. C'est toujours le point où on en est. Donc, l'idée de penser le cinéma comme un lieu magique dans lequel le temps n'existe pas, dans lequel on est dans un autre temps, fait que je suis sur toujours, j'avais deux projets qui étaient liés à la magie, et j'en ai un qui n'est pas perdu encore, et qui est lié à la magie, et à l'invention du cinéma, aux opérateurs lumière, aux Indiens de Virginie, donc il y a ma famille, et sur l'idée d'un magicien, opérateur lumière magicien, ce sera un mélange de Gabriel Vert et de Georges Méliès, qui était un vrai magicien, et donc j'ai bossé là depuis 3 ans avec un magicien, et assez bluffant, qui font des trucs assez étonnants. Et j'ai filmé ça, j'ai fait une petite bande, j'ai fait un film démo de 15 minutes pour faire voir un petit peu à quoi ressemblerait le film. Et j'espère la tourner. Alors, c'est un film qui se tourne en Amérique, 4/5, 9/10, et à Lyon. Donc j'ai des problèmes de moins de financement que d'acteurs. C'est comme ça parle en anglais, il faut que j'ai 2 acteurs américains et un acteur français qui serait magicien. Donc c'est toujours des problèmes de. C'est les problèmes de les films, c'est 300, 4 ans, 300 de votre vie. Quoi. Même quand ça va bien, on a un coup de bol, on tombe sur un mec qui vous dit tiens, envie que tu fasses ça. On dit c'est le film de commande. Moi, j'en ai jamais fait de film de commande. Même les enragés, j'ai pas fait de film de commande. Mais là, et puis avec l'âge, on devient finalement de plus en plus exigeant. Donc il faut que ça soit exactement ce que je veux. Donc je en tant que réalisateur, et je préfère faire ça là maintenant que l'image en France qui ne m'intéresse pas du tout. C'est-à-dire que l'image des films français ne m'intéresse pas du tout.
Ah oui.
Donc je trouve ça désespérant.
Ah, pourtant, là, quand vous aviez bossé avec Guillaume Nicou, c'est pas
oui,
si
mais c'est chouette. Oui, mais ça fait un petit bout de temps déjà. C'est-à-dire que moi, les petits films qui m'ont proposé, que j'ai refusé, c'est quand même assez pénible. Quoi. Les films qui sont des films français, il y a les films d'Audiard, là, qui sont des trucs qui sont pas mal foutus. Je parle d'image, ce que vous amenez, si vous êtes demandé par un type comme ça. Jimmy P, je trouve le film de Desplechin très très intéressant. L'image, je trouve ça très bien fait, le film et l'image. Mais sur, on va dire, sur 8 films français dans lesquels je me retrouve, je vais voir sans merde. Un truc qui m'emmerde avec et qui m'emmerde à fond. C'est-à-dire des gens qui veulent parler que d'eux, pas du monde dans lequel on est, qui n'ont aucune idée, aucune invention, il n'y a pas de fiction, c'est de la télé-réalité qui ne veut pas dire son nom, c'est d'une pauvreté visuelle épouvantable, on n'entend pas les acteurs, donc moi je me tape tous les films de Cannes tous les ans, j'ai le temps de vous dire que c'est pas non, mais c'est les films de Cannes, et encore c'est le dessus du panier. Parce que mes potes à Richmond, là ils voient tous les films français, je les aide, je leur envoie les coffrets des Césars, j'ai le temps de vous dire, je trouve personnellement. Très très affecté. Pas bon, malheureux, mais je suis affecté, ça me fait chier.
Oui, c'est sûr, c'est sûr. Bah, c'est sûr que le cinéma français qui se faisait, où il y avait un équilibre vachement intéressant entre le cinéma d'auteur et le cinéma de genre,
et le cinéma de genre
n'existe plus.
N'existe plus, et le cinéma de genre s'est perdu. Il y a des gens qui essayent de faire perdurer le cinéma. Il y a Olivier Marchal qui essaye de dire de rester sur le film, sur le cinéma de genre. Il y a Nicolas Boukrieff, vous voyez, des
j'aime bien Boukrieff, moi.
Qui sont des mecs qu'il faut suivre, vous voyez. Et puis, cinéma de genre n'est pas perdu. Hein. Nicolas Winding Refn, c'est...
Ah, c'est mon réalisateur préféré.
Ah oui, voilà. C'est des mecs, c'est des metteurs en scène. Non, mais
c'est
tout ça, c'est-à-dire que le cinéma de genre, il est toujours là. Et puis, finalement, Kitano, c'est le cinéma de genre quand il fait ses machins. Donc, il ne faut pas non plus dire... Allez, regardez, Stéphane Frère a fait des cinémas de genre aussi, justement avec des trucs de Thompson, il ne faut pas faire chier. Mais c'est vrai que c'est vrai qu'en France, là, l'auteurisme a bouffé le cinéma d'auteur et le cinéma de genre. L'auteurisme, c'est des gens qui ont des gros nombrils qui regardent dans les glaces avec des loups pour dire, regardez, je suis le centre du monde. C'est pas du tout mon idée du cinéma. L'idée du cinéma, c'est de partager et d'essayer de créer quelque chose. Dans la somme, c'est supérieur à l'édition des parties, c'est rien d'autre. Tous les films que j'ai essayé de faire, c'était comme ça. Quoi.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone et Radio Graphite. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee, avec un petit coup de main de Damien Demey à la technique, la fameuse bête noire de Compiègne, et enfin pour l'architecture sonore de l'ensemble, Léo Magnin. Salut les gens, à la prochaine.